Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée des Imaginales 2018, avec le beau temps et déjà un peu de chaleur sous les Magic Mirror, hein, va falloir s'hydrater dans la journée. bienvenue pour cette table ronde autour de l'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit, parce que ce sera ça l'idée de cette table ronde, c'est de parler de l'histoire, des contextes historiques dans lesquels les romans de nos auteurs présents sont installés, et puis et bah, des histoires qu'ils y installent, qui ne sont pas forcément l'histoire avec donc ce grand H, mais bel et bien des histoires romanesques qui viennent s'y installer, évidemment avec les contraintes, voire les joies et les plaisirs que ça peut leur apporter au moment du travail d'écriture. Vous allez voir qu'on a une table ronde qui est assez diverse, hein, aussi bien au niveau des époques qu'au niveau des contextes globalement, également dans les genres, puisqu'on a aussi bien du fantastique, de la fantasy, que carrément de la science-fiction avec Stéphane. Voilà, vous allez voir que c'est un panorama assez large, également avec de la littérature jeunesse et de la littérature plus adulte. Donc on devrait arriver dans cette heure à balayer beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Je vais me tourner pour démarrer vers notre invitée américaine, Delia Sherman. Bonjour. Parce que vous allez nous emmener... Alors, on verra avec vous en plus parce qu'il y a deux périodes historiques qui sont traitées finalement dans votre roman. Donc, on parlera des deux parce qu'il y a des intérêts divers, mais on va évidemment se focaliser sur celle qui est le plus naturelle dans le labyrinthe vers la liberté. C'est la question de l'esclavagisme aux États-Unis et de la période qui précède immédiatement la guerre de sécession, puisque votre héroïne, Sophia, qui est une petite fille qui vit au début des années 60, enfin fin des années 50, début des années 60, va se retrouver projetée 100 ans en arrière et donc va découvrir une plantation, non pas celle qu'elle connaissait enfant de sa grand-mère avec un lustre passé et quelques vestiges, mais véritablement la plantation telle qu'elle fonctionnait au temps de l'esclavage. Vous écrivez pour la jeunesse, c'est une thématique difficile. Qu'est-ce qui vous a amené justement à parler de l'esclavage à votre jeune public?
I was writing something of my own experience. Because my mother came from Louisiana, and I spent a lot of time in Louisiana in les années 60, and I was part of all of that, and as I grew older, I realized that the things that I had, the ideas that I'd been brought up with, were wrong.
Alors, je voulais écrire quelque chose qui touchait à mon expérience personnelle. Ma mère vient de Louisiane. Personnellement, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps en Louisiane dans les années 60 et j'ai été vraiment en plein dedans. Et au fur et à mesure, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que les idées avec lesquelles j'avais grandi n'étaient pas les bonnes idées. Elles étaient fausses, en fait.
I was basically brought up in a society in which black people were stupid, black people should have been slaves. The good old days were the days when everybody knew their place. And I grew up in New York. That was where I lived, and my parents had moved to. So I could see that the world was not that way.
Alors bon, À l'époque, la société en Louisiane disait bah voilà, que les Noirs étaient stupides, qu'ils devraient être des esclaves, que le bon vieux temps, c'est quand tout le monde savait quelle était sa place dans la société. Mais moi, j'ai grandi à New York également, et je voyais bien que ce n'était pas comme ça, le monde.
So I did when I got ready to write this book, which was not an easy book to write, I did a lot of research so that I could show everybody exactly how good the good old days were, and they weren't. So everything that is in my book that is in 1860 is absolutely accurate to the daily life on a cotton plantation in Louisiana of the period.
Alors bon, quand j'ai préparé mon livre, et ça n'a pas été un livre facile à écrire, je vous le garantis, j'ai fait beaucoup de recherches. Je voulais montrer aux gens que le bon vieux temps, bah, dans le fond, il n'était vraiment pas bon du tout. Alors, tout mon livre, toute la partie de mon livre qui se déroule dans les années 1860 est très précis. Je raconte vraiment la vie quotidienne des esclaves sur une plantation.
On y reviendra évidemment au fur et à mesure de cette table ronde. Jean-Laurent Del Socorro, coup de cœur de l'édition 2018, prix des bibliothécaires. Ça va, vous survivez là pour le moment, ça se passe bien?
Oui, très bien. N'oublions pas mon illustratrice,
c'est
s'il
vrai,
vous plaît.
Le je suis bien placé pour le savoir, ouais, en tant que membre du jury, pour la couverture de Boudica. Je voulais qu'on parle peut-être même un petit peu avant de votre précédent roman. On va évoquer évidemment les deux, parce que j'ai une question un peu plus générale pour vous. Le thème, c'est raconter l'histoire et raconter des histoires et écrire des histoires. Or, vous avez une particularité, c'est que vous choisissez des événements et des contextes historiques qui finalement ne sont pas... les plus connus, les plus évidents. Je vais prendre mon cas, je vais me faire passer un peu pour un bonnet, mais ce que je dis est vrai, hein, c'est pas une pause. Quand j'ai lu Royaume de vent et de colère, j'étais persuadé que c'était une uchronie au départ. Or, en cherchant après, je me suis rendu compte que pas du tout, ça n'était pas en tout cas, si l'objectif était d'en faire une uchronie, elle n'était pas dans le récit des faits tels qu'ils se sont passés, mais voilà, vraiment, juste parce que j'ignorais totalement cette histoire de Marseille soulevée contre l'envahisseur et le roi Parpaillot, hein, d'une certaine manière. Donc, voilà, comment vous choisissez justement ces sujets? Qu'est-ce qui vous attire vers ces histoires qui ne sont pas les plus, celles qui courent le plus et qu'on connaît le mieux?
Alors déjà, je vous rassure, même les Marseillais n'étaient pas au courant qu'il y avait forcément une république indépendante à Marseille pendant les guerres de religion. En fait, je tombe sur une histoire, un élément historique, je me dis, ça, il y a une matière... à en tirer des thématiques fortes, que ce soit par les événements ou que ce soit par les personnages. Alors il se trouve effectivement, Royaume de vent et de colère, c'est les guerres de religion, c'est un micro-événement des guerres de religion, qui est cette Marseille indépendante catholique, le siège de Marseille par Henri IV, c'est peu connu. Déjà Boudica, même si c'est peu connu chez nous, Boadicée, elle a une reconnaissance très forte dans le monde anglo-saxon, elle est peu connue chez nous. Mais je ne l'ai pas choisie spécialement parce qu'elle n'était pas connue, même si c'est vrai qu'une de mes démarches est évidemment d'écrire un roman sur elle, parce que c'est une personnalité féminine historique incroyable, que c'est dommage de s'en priver, et aussi de la faire connaître. Mais pour donner un autre exemple à ça, c'est d'ailleurs, on a tiqué avec Stéphane à l'instant, mais mon prochain thème n'est pas du tout un événement minoritaire, puisque mon prochain thème est la guerre de sécession américaine. Donc du coup, voilà, on a un point commun là-dessus. Et là, je pense pouvoir dire que la guerre de sécession, même si on la connaît mal en Europe, voilà, on est sur un événement majeur, par contre, de l'histoire du monde.
On sait qu'elle a cessé, c'est sûr.
Exactement.
Hervé Jubert, avec vous, on va partir au 19e siècle, encore une fois, mais chez nous, à Paris. Blanche vient de ressortir dans une version intégrale et même augmentée, puisque je crois qu'il y a un texte inédit dans cette version publiée par ActuSF. Or, Blanche se déroule, en tout cas pour le début, en pleine guerre franco-prussienne de 1870, avec Paris assiégé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on vous croise à cette période historique. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement vers le Second Empire et vers sa chute, sa suite ?
Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
À ce point-là ?
Non, oui. Parce que j'ai commencé, comme pas mal de mômes, à tomber dans les gravures de Jules Verne, avant d'en lire. Donc c'est complètement 19e. On est dans le réalisme, enfin dans le merveilleux scientifique, etc. Les gravures, etc., etc. Après, j'ai vécu à Paris une bonne dizaine d'années. Paris est encore une ville très 19e, avec beaucoup de fantaisie, de fantastique apparent, quand on gratte un peu les surfaces. Et comme j'ai une petite formation d'historien, d'universitaire, etc., j'ai toujours adoré plonger dans les archives, les bibliothèques, et je ne les ai pas choisies par hasard. Donc c'était la vieille BN, c'était les archives de la police, et je me retrouverai toujours au 19e, et Blanche vient de là, parce que... Comme toi, je suis tombé sur cette petite poche de temps, le siège des Prussiens, juste avant la Commune. Alors la Commune était vachement traitée pour tout ce qui était fiction, mais le siège des Prussiens, je n'avais pas trop vu traité, en tout cas, je n'ai pas vu d'exemple. Et c'était une période de, comme je les aime, où l'irréel côtoie le réel. Alors que les Parisiens se sont retrouvés enfermés dans leur ville pendant 4-5 mois d'hiver très rude. Et ils ont fait comme ils ont pu avec misère et panache pour survivre. Alors, le panache, c'est manger les éléphants du jardin des plantes. Puis, c'est essayer de s'enfuir en lançant des scaphandriers, marcher sur le fond de la Seine. Donc, on vient à Jules Verne. Et puis, il y avait aussi le quotidien totalement sordide de la vie, comme on fait pour bouffer, quoi. Et je trouvais le décor génial. Voilà, donc c'était mon point de départ pour Blanche. Et puis, que j'ai tiré le fil sur 2-3 ans suivants.
Et on verra que même quand vous faites une série d'imaginaires a priori purs, on est quand même finalement très près trilogie Beauregard. On est
oui, mais même Beauregard, où là c'est un Paris Second Empire réinventé, mais pas tant que ça, parce que je me suis basé sur le fantastique parisien tel qu'il était connu des Parisiens, donc les créatures folkloriques, l'homme vert des catacombes, le petit homme rouge des Tuileries, etc. J'ai fait mon vade-mecum, ma bible fantastique de Paris, je me suis basé dessus pour le monde de Beauregard, qui est finalement qui était le monde réel des Parisiens à l'époque. Quoi. Voilà.
Et on termine ce premier tour de table avec Stéphane. Comment est-ce que je prononce déjà ? C'est la première fois qu'on... Przybylski, simplement, je n'ai pas besoin de me compliquer. Je suis content, c'est la première fois qu'on est en table ronde ensemble et ça me fait plaisir. Pardon. On va parler de la Seconde Guerre mondiale avec vous, de cette période, alors qui est même plus élargie que ça, hein, parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure de la tétralogie qu'on couvre à la fois ce qui s'est passé avant cette Deuxième Guerre mondiale et même un peu ce qui s'est passé après, quasiment même jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Avec une partie uchronique, mais ça, on y reviendra un petit peu plus loin dans cet entretien. Je connais un petit peu la réponse, mais pourquoi la Deuxième Guerre mondiale ?
Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale ? Parce que c'était la période de l'histoire du monde qui, selon moi, était la plus propice pour mettre en scène la découverte d'une civilisation extraterrestre installée sur Terre depuis des milliers d'années, et surtout mettre en scène la dissimulation de cette existence par les grandes puissances. C'est-à-dire que, tout simplement, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on a en place dans les grandes démocraties mondiales tous les organes de pouvoir et de contre-pouvoir et de services secrets susceptibles de se livrer à cette dissimulation. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, si on avait découvert une telle existence... extraterrestre bien plus tôt dans l'histoire de l'humanité, on n'aurait pas été en mesure de la dissimuler.
Alors, ce sont vos débuts romanesques, mais je crois savoir que vous avez déjà publié avant sur d'autres thématiques finalement, il y a aussi une certaine logique à vous retrouver.
Ah oui, et j'ai beaucoup travaillé sur la guerre de 1870 parce que je suis un collaborateur du musée de Gravelotte. Donc le siège de Paris et tout ce qui tourne autour, c'est un peu mon cheval de bataille depuis plus de 15 ans maintenant. Donc voilà.
Donc l'histoire militaire n'était pas totalement
une
découverte.
Non, il en fallait. Et puis il fallait aussi que, pour moi, le background historique de mon histoire, c'était important, c'était central. Parce que justement, quand on s'attaque à des mythes aussi farfelus que les extraterrestres, les soucoupes volantes, les savants fous nazis, les archéologues à la Indiana Jones, on se retrouve forcément avec des univers où on va dire, ah oui, ça doit pas être très sérieux, ça doit être tiré par les cheveux, ça doit être de l'ordre de l'autopsie de l'alien par Jacques Pradel dans les années 90. Et voilà, et donc tout le challenge, c'est de rendre l'histoire justement crédible. On se dit à la fin, mais mince, là il m'a raconté des éléments qui étaient historiques, là cet événement, est-ce qu'il a réellement eu lieu ou pas ? Et idem avec les personnages. On vient me voir parfois, on me dit, ah bah tiens, j'ai cherché votre espion anglais, là, le chef du renseignement à Londres, je l'ai cherché dans Wikipédia, je ne l'ai pas trouvé, je lui fais, ben ouais, c'est normal, il n'existe pas, mais en attendant, si vous avez fait la démarche, c'est que la sauce est la prise, c'est-à-dire que si vous avez pu croire au tableau que je brosse de Himmler, de Hitler ou d'autres personnages historiques, forcément quand vous allez glisser sur un personnage fictif et si vous le trouvez crédible, c'est que ça marche.
Delia Sherman, on voit encore, il y a quelques semaines avant que s'ouvrent les imaginales, que la question de l'esclavage est extrêmement sensible dans la société américaine. On l'a vu avec les déclarations d'une star qui a fait polémique et scandale, Kanye West pour ne pas le nommer. Où en est aujourd'hui l'enseignement aux États-Unis de cette question de l'esclavage, de cette histoire douloureuse et difficile et est-ce que justement le travail du romancier, et en particulier d'un romancier qui s'adresse à des lecteurs assez jeunes, c'est aussi justement de leur faire un peu mieux découvrir ces questions sans forcément justement entrer dans des considérations très politiques, très idéologiques, mais simplement voilà, en leur disant mais ça s'est passé comme ça.
I think that it is one of the things that one can do as a novelist is to introduce to a reader a world that is strange to him or her and that they are not threatened by because it's in a book. So I'm not talking about what you believe or why your father is wrong to say what he says. I am saying here is a world that has maybe nothing to do with you, but that you can enjoy. And when you finish reading this book, maybe your mind will be changed a little and the way you look at the world you live in will be changed a little too.
Une des choses qu'on peut faire quand on est romancier, quand on écrit un livre, c'est qu'on présente un monde au lecteur, un monde qu'il ne connaît pas. Et comme c'est un roman, c'est pas une menace, c'est un livre, c'est pas une menace. Et ça veut dire, on n'est pas en train de leur dire, t'as tort de penser ce que tu penses, ton père a tort de dire ce qu'il dit, etc. Non, on présente un monde et ça permet de voir les choses différemment, de peut-être réfléchir différemment grâce à la fiction.
And I think it's particularly important to do that for children, because especially to do it in a non-threatening way, to present them with a character with whom they can at least sympathize, if not identify with, and who they can see living out a life that they would either like or not like to live through. And if they see that her best friends, that her support comes from people who they have who work all the time, but they have been told are lazy and stupid, then maybe it will change their minds a little, and this cannot be a bad thing.
Et je pense que c'est très important quand on écrit pour les enfants, pour les jeunes, de présenter les choses de manière qui ne sont pas menaçantes, de présenter les choses du point de vue d'un personnage, peut-être pas un personnage avec qui ils peuvent s'identifier, mais un personnage pour qui ils ressentent de la sympathie. Et on voit ce personnage qui vit une vie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certes, mais c'est quelque chose, c'est une sorte de soutien. Ça permet de voir, par exemple, que des gens dont on dit qu'ils sont paresseux, etc., étaient en fait en train de travailler toute la journée.
That all said, I did not write this in order to teach. I wrote this in order to discover something about myself and my family and the characters that I was that I was dealing with. And I think that if you write something in order to teach children, they are going to run away in great groups. So it is necessary to write it for yourself, for things that are very important to you, or else you might as well save your time.
Mais bon, j'ai pas écrit ce livre pour donner des leçons. C'était pour découvrir des choses qui sont en moi, qui sont en ma famille, et qui sont également importantes pour mon personnage. Faut pas écrire pour enseigner, faut pas écrire pour faire donner la leçon, parce que les enfants vont tout simplement fuir en masse. On doit écrire pour soi, sur un thème qui est important pour soi et qu'on souhaite développer.
Hervé Joubert, je vous pose également la question, parce que vous êtes avec Delia, l'auteur ici, qui s'adresse peut-être aussi au public le plus jeune, en tout cas directement, sur une période, pour encore prendre mon exemple, mais moi c'était souvent la période qui sautait à la fin de l'année scolaire, parce que ça arrivait souvent en fin de programme, et puis bah, comme on est toujours en retard dans les programmes scolaires, on finissait par passer à l'AS, et puis bah, on reprenait l'année suivante, et on atterrissait plutôt au début du XXe siècle. Est-ce que ça joue aussi le public auquel vous vous adressez? Est-ce qu'il y a une nécessité d'être un peu plus pédagogue?
Non. Moi, j'écris, je choisis mes périodes vraiment en fonction de mes goûts. J'écris avant tout, moi, mon but, c'est que le lecteur soit happé, immergé et qu'il soit ailleurs, qu'il considère les personnages comme vivants, quasiment. Si j'y arrive, je suis heureux comme tout. Et c'est tout, voilà. J'ai pas de... Mais si je mets des leçons, c'est plutôt des conseils, c'est n'ayez pas peur, osez...
J'allais pas jusqu'au mot leçon. Hein.
Non, mais, vraiment, enfin, non, mais... Mais voilà, donc moi je suis dans le divertissement pur et mon unique but c'est essayer de créer des petites poches de fiction qu'on ouvre, qu'on referme et quand on est dedans, on est ailleurs. Voilà.
Avec cette particularité, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une scène par exemple dans la première enquête de Blanche dans un restaurant des Halles où le menu varie en fonction des arrivages depuis le Jardin des Plantes.
Ah mais le menu est réel, oui. On mange de l'éléphant à la poularde ou à la poulette, je sais plus comment on dit, du chat, des brochettes de chasse au sravigote et... Ah oui, mais quand je tombe sur des trucs comme ça, je suis obligé de les mettre. Je peux pas
là
les...
encore, un peu comme le disait Stéphane, il y a des auteurs qui vous font la remarque en vous disant « Mais ça, c'est vrai, c'est la réalité, c'est votre imaginaire. »
Non, non, non. Mais je pense qu'ils sentent que c'est pas inventé. Je pense que j'aurais pas assez d'imagination pour inventer ce genre de trucs. Et j'adore aussi, j'ai mon côté historien et fouineur d'archives et bibliopathe, quoi. C'est que quand je trouve un truc excellent, pointu, je le prends, quoi. J'ai pas le choix. Comme ça, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Palais des Mirages, qui se passait dans l'Expo universelle de 1900 à Paris. Et j'avais été aux archives de la police, donc mon lieu de prédilection. Il m'avait sorti deux cartons d'archives en vrac. Et dans une des chemises, c'était comme l'époque des anarchistes, il y avait des gens qui faisaient sauter les statues, les symboles du pouvoir, des rois étrangers, etc. Et il y a un petit rapport de la police de l'exposition universelle qui explique la nuit du temps au temps. Deux individus cagoulés ont été surpris en train de poser un appareil, une bombe incendiaire au pied de la statue d'un vieux roi espagnol. Ils ont fui à notre arrivée. Et 6 juin, 4 allumettes. Et il y avait les allumettes dans une enveloppe et elles sentaient encore l'essence. Merveilleux. Donc je les ai mis dedans, quoi.
Jean-Laurent. Particularité avec Boudica, puisqu'on parle de l'histoire. Or, finalement, de Boudica, que sait-on véritablement ?
Alors, excellente question. D'ailleurs, c'était une des difficultés sur lesquelles j'ai été confronté. Je rencontre ce personnage. Et sur les textes, on a une double difficulté. Il y en a très peu. Il y en a principalement en deux, un texte de Tacite, puis dans le Agricola romain. Et donc, romain, le point de vue partiel des vainqueurs, qui la cite sous un aspect, voilà, là aussi, c'est une partie de l'histoire très, très technique qui parle essentiellement de ses combats. Ils ont une vision très partiale du monde celte sur l'île d'Angleterre. Donc, comment faire pour effectivement pas tomber dans le cliché, écrire une histoire dont on ne connaît que la fin, en fait, son combat, parce qu'elle n'apparaît qu'à l'âge adulte, en fait, dans les textes romains, et comment on. Comme je l'ambitionnais, c'est de sa naissance à sa mort, dire qui elle était et où est-ce qu'elle va arriver jusqu'au ce moment à se soulever contre l'Empire romain. Et ben alors là, je me suis tourné vers quelque chose sur lequel je ne m'attendais pas. J'ai travaillé l'archéologie, en fait. Des archéologues ont travaillé sur l'Angleterre, donc vraiment sur le milieu précis, sur la période des Icènes, qui est le peuple de Boudica, sur la période où elle a vécu, pour pouvoir déjà reconstituer quelle était la réalité du monde celte, quelle a été à ce moment-là et à cette époque et sur cette île, les théories effectivement de l'apparition de Boudica, les hypothèses sur qui elle aurait pu être, donc les vraies hypothèses historiques basées voilà, sur les reconstitutions et sur le texte. Je l'ai fait valider, j'ai demandé à... Je travaille avec des comités de relecture et j'avais un comité de relecture constitué d'un archéologue d'époque, donc Gwendal Gegen, que... Je remercie encore du travail qu'il a fait là-dessus. Et pour la petite histoire, la première version, donc le premier jet du texte que je lui soumets, est largement invalidé pour réalité historique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchaient très bien, mais notamment sur l'aspect société celte, il y a deux, trois choses sur lesquelles il m'a dit là, il faut revoir la copie. Et puis il m'a dit très gentiment, avec beaucoup de tact, donc voilà, ce passage-là, on sait, voilà, tu as fait un nœud central du récit, mais ça, c'est pas possible. Donc, c'est la seule chose qui m'enlève, en fait, c'est le pierre angulaire du récit. Donc là, on repart à zéro à la copie. Mais après, il est là pour ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que le lecteur fasse confiance un minimum sur la cohérence Certes, je ne suis pas historien, certes, ce n'est pas un cours d'histoire, mais voilà, il fallait que j'ai cette caution-là au moment.
Ce qui explique aussi en partie pourquoi c'est un roman d'imaginaire, plus qu'un roman historique, finalement, Boudica.
Complètement, c'est-à-dire les 20 premières années de ma vie, j'ai dû prendre en compte le fait qu'on n'avait pas de source et prendre une des grandes hypothèses qui était soit Boudica, dans sa jeunesse, était, comme je l'ai supposé, une reine installée avec du pouvoir, noble, romanisée, et du coup c'est un mariage d'alliance qui va faire qu'elle se retrouve sur le clan Hyssène, ou du moins qu'elle transmet ce pouvoir. Ou, deuxième version, qui était aussi probable, c'était peut-être une prise de pouvoir des Hyssènes sur un clan inférieur. Et là, c'était on se retrouve avec un cadre qui aurait totalement changé. C'était une princesse captive, mariée de force, non consentante. Ça aurait changé complètement l'histoire. J'ai fait le choix de la première version. Mais pour de vrai, on ne sait pas.
Stéphane, la tétralogie Origine, c'est donc une histoire... qui est celle que nous connaissons de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas celle qu'on croit connaître, sur laquelle viennent se greffer, on l'a dit, des aspects science-fictifs, des aspects de culture populaire également, parce que ça, on en reparlera dans une autre table ronde, mais la place du super-héros est également très importante dans cette tétralogie. Pourquoi avoir choisi d'utiliser l'Uchronie dans cette tétralogie? Est-ce que finalement la partie science-fictive ne se suffisait pas à elle-même en soi?
Alors déjà sur l'Uchronie, j'ai envie de dire dans ce que je décris jusqu'à nos jours, si c'est une Uchronie, alors ça veut dire qu'on vit dans une Uchronie.
Alors c'est pas juste ce que tu fais, parce que je peux pas te contredire en donnant un exemple, parce que je n'en pense pas moins quand
ou
même.
Ou alors ça veut dire que c'est de l'histoire secrète.
Mais ça c'est un faux argument, ça. C'est scandaleux, c'est malhonnête.
Scandaleux. l'aspect uchronique. Vient que...
T'as été primé pour un prix du chrony en plus, t'exagères.
Alors, l'aspect uchronique vient du fait que forcément à l'intérieur du récit, il y a des événements qui se produisent et qui n'ont pas existé. Mais comme je disais, tout le ressort de l'histoire, c'est de s'interroger sur la probabilité de l'existence ou pas de cet événement. C'est-à-dire que même en s'attaquant à des choses comme par exemple le super-héros, effectivement, et en se disant, mais voilà, finalement, oui ou non, super-héros, de s'interroger en fait sur les, comment dire, sur l'aspect historique de ce mythe.
C'est qu'on retrouve aussi toute une culture populaire,
oui,
qui est très importante, qui nous parle par certains côtés, voilà. Parce que bon, voilà, il y a un personnage central, Friedrich Sachshauser, qui nous fait irrésistiblement penser à Indiana Jones, hein, on peut,
ou à James Bond.
Ouais. Et puis à côté de ça, on a effectivement toute une partie sur les comics, ouais, où on retrouve certains de ces codes-là. Mais puisqu'on parle vraiment d'histoire, et on en avait parlé à Sèvres il y a quelques années, je sais que tu as travaillé sur la chronologie, ouais, avec une précision. Pour que vraiment la fiction puisse coller, ouais, véritablement au canevas historique. Hein.
Il fallait qu'à chaque, que l'histoire fictive épouse la courbe du temps en fait. Au début, donc, dans le château des millions d'années, on est en Irak en 1939. Il y a une expédition archéologique nazie qui se rend en Irak aux sources donc supposées de la race aryenne pour faire des démonstrations pseudo-scientifiques sur la supposée supériorité de la race aryenne. C'est historique. Il y a effectivement des missions archéologiques allemandes.
Ce qu'on retrouve en ce moment dans le dernier roman de Jacques Ravenne et Éric Giacometti, que je vous conseille également, qui est très intéressant. Jacques Ravenne en parlera ce week-end, je crois.
Donc il y a ça, et ensuite, évidemment, je continue. Dans Club Uranium, donc le troisième tome, il y a le voyage, enfin, l'arrivée de Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler, en Angleterre en 1941. Et ça continue dans Le Crépuscule des Dieux. On est plutôt sur la fuite des nazis en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, je me suis vraiment appuyé sur l'histoire, la vraie, pour décrire ce qui se passait, avec l'idée, ouais, voilà, d'aller souvent fouiller dans des zones d'ombre de la période, des choses qui sont peu ou pas étudiées. On sait peu qu'il y a eu une révolution en Irak en 1941, donc révolution de partis irakiens pro-nazis qui ont bénéficié du soutien de l'armée de l'air allemande, et également des forces de Vichy qui étaient à ce moment-là en Syrie. Donc vous voyez, ça renvoie à la période moderne, et tout ce qui s'est mis en place à cette époque dans cette partie du monde, ça renvoie directement à l'actualité, là, pour le coup, puisque le parti et les mouvances qui sont, par exemple, autour de Bachar el-Assad en Syrie, ils ont bénéficié dans les années, des années 40 aux années 60, du conseil de criminels de guerre nazis qui avaient fui et qui avaient donc décidé d'aller vivre en Syrie et qui ont participé à la réorganisation des services de renseignement et de police de ce pays, dont on peut mesurer encore aujourd'hui l'efficacité malheureuse.
Dont le voilà. Sinistre Aloïs Brunner, hein, ouais, en particulier. Delia Sherman, Sophie, qui est un choix de prénom très intéressant, on pourra peut-être en dire un petit mot, la sagesse. non mais je trouve que c'est... Ah oui, non mais moi j'ai trouvé ça très, très intéressant sur l'évolution du personnage. Il y a vraiment de ça, hein, entre son aller-retour dans le passé. Sophie, quand on la rencontre, elle n'est pas une petite fille heureuse dans son XXe siècle. Or, vous la projetez... Vous lui donnez quand même une petite leçon, parce que vous la projetez et vous n'en faites pas une propriétaire terrienne, une descendante de propriétaires terriens. Non, vous en faites une esclave. Et là, forcément, la vie est quand même beaucoup moins rose d'un coup.
Well, I mean, you want your characters to suffer as much as possible, right? I mean, that's the point of being a writer, is that you put them through the ringer and they come out a slightly different shape.
Il faudrait que je demande à Stéphanie qu'on fasse un jour un thème sur le sadisme dans la littérature.
Okay. On veut vraiment que son personnage souffre autant que possible, hein, quand on est écrivain. On leur en fait voir de toutes les couleurs, et puis après, ils en sortent, ils ont changé.
I am going to change the subject just a little bit, because I too am writing a book on the Franco-Prussian War and the siege of Paris and the Commune, and I have listened to all of this with extreme pleasure, and I am doing exactly, of course, the same things to my characters. I am making them live through a time where they feel powerless, where they are having an extremely difficult time, where their own personal considerations are taken over by the exigencies of war.
Alors, j'ai un peu changé de sujet quand même, parce que là, je suis en train d'écrire un livre qui se déroule pendant les guerres franco-prussiennes, en pleine commune, pendant le siège de Paris, etc. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu ce que vous disiez. J'aime bien mettre mes personnages à une époque où ils sont impuissants, où c'est très difficile pour eux, et leurs besoins personnels sont en fait dépassés par les exigences de la guerre.
And I like to tell the story of people who are having history happen to them rather than the story of the people who are making the history happen. So there is nobody powerful in any of my books, and this book especially, the one I'm working on, which is for adults, is mostly women and some children.
Personnellement, j'aime bien écrire les histoires de personnes qui subissent l'histoire, pas ceux qui la provoquent, la cause en quelque sorte. J'écris souvent sur des personnages qui sont complètement impuissants. Et ce livre que je suis en train d'écrire, qui est pour les adultes, a beaucoup de personnes impuissantes, surtout des femmes et des enfants d'ailleurs.
Stéphane, tu voulais réagir?
Oui, je peux me permettre de souligner le fait que je suis heureux et je me félicite une fois de plus que les Américains s'intéressent à la période et à quel point nos histoires sont connexes entre la sécession d'une part et la guerre franco-prussienne et le Second Empire. Et ça, les Français, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on étudie peu la période à l'école chez nous. Et par contre, dans le monde anglo-saxon et chez les Américains en particulier, il y a un très, très fort retentissement sur la période pour des tas de sujets. Et là, je pense que je n'aurai pas le temps. Mais, donc je
continuera sous la bulle après.
Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais je me félicite vraiment qu'encore une fois, on se retrouve sur des sujets comme ça, parce qu'effectivement, on en parlait sur la sécession, toi et moi, parce que je travaille aussi sur des éléments. Et moi, c'est plutôt sur l'époque là, en tout cas, ce qui concerne les guerres indiennes. Et votre général Sheridan, le grand tueur d'Indiens, il est venu en tant qu'observateur dans l'état-major du roi de Prusse, et il a assisté au siège de Paris, je crois, et
tout
en tout cas à la bataille de Sedan, ça j'en suis certain. Le siège, hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il y était aussi. Mais dans le bon camp, entre guillemets, il était chez les vainqueurs, il était chez les Allemands.
J'ai lu ses mémoires.
Voilà, donc.
Delia, ce personnage de Sophie, elle va découvrir finalement, elle est le fruit d'une éducation. Mais on voit déjà qu'elle se pose des questions avant de voyager dans le passé. Et finalement, peut-être presque ce qui motive ce voyage dans le passé, on ne racontera pas comment ça se passe exactement, mais ce qui motive, c'est aussi peut-être le fait qu'elle ait montré de la curiosité pour ces questions-là. Or, elle n'avait personne dans sa famille qui accepte de lui répondre, de lui donner les éléments. Elle va donc, elle n'est pas totalement naïve quand elle arrive dedans. Elle sait qu'il y a quelque chose et que c'est pas forcément, si on lui cache, c'est que ça doit pas forcément être très glorieux. Mais il y a une distance finalement qui se fait entre la vie au quotidien et ce qu'elle va découvrir. Et puis le fait aussi qu'elle soit une enfant avec un certain caractère, hein, mine de rien, même si dans sa famille on la juge plutôt un peu bêtasse, voire voilà. On la considère pas très 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 bien. Et là, finalement, voilà, elle apprend aussi finalement la révolte.
Well, a child always does at some point have to discover in their lives the moment when you say no, this is something that is me. I don't care what my family says, or I do care what my family says, but I have to turn my back on that. And that moment of separation is part of what divides a small child from a child who is going to be an adolescent. And Sophie is 12 and 13, and during the course of the novel, she grows up, she matures physically. And when she comes home, she does not go back to the little girl she was. She is a more mature woman. And her aunt, who has just seen her 10 minutes ago, because as in magic, everything happens in, you know, 10 minutes. But for Sophie, it's been almost a year. And her aunt goes, how did you develop a bosom in 10 minutes? And so I wanted that part and the real growth in her to be real, so that it wasn't all a dream. It wasn't just an adventure. It was a real moment of change and decision.
Alors, en fait, les enfants ont un moment où, dans leur développement, ils doivent en fait découvrir qui ils sont. Un moment où ils se disent non, moi, c'est ça, moi, je suis comme ça. Et peu importe, bon, pas vraiment peu importe, mais je ne m'inquiète pas de ce que pense ma famille, de ce que dit ma famille. Moi, je vais me détourner de ça et je vais devenir moi-même. Et c'est vraiment le moment qui sépare un petit enfant d'un adolescent. Et mon personnage, Sophie, a 12-13... c'est un moment qui se passe vers les 12-13 ans. Et c'est un moment de croissance physique. Et Sophie... Sophia, dans le livre, grandit physiquement. Elle rentre à la maison, elle est plus mûre intellectuellement, mais aussi physiquement. Et sa tante, qui l'a vue il y a 10 minutes, parce que dans les romans où il y a de la magie, tout se passe en 10 minutes, comme toujours. Mais Sophie, elle a grandi, elle a vécu presque une année dans le passé. Et la tante lui dit, mais comment se fait-il, t'as de la poitrine, alors qu'on s'est vu il y a 10 minutes, comment t'as fait pour avoir cette poitrine en juste 10 minutes? Et cette croissance réelle ça fait que ce n'est pas juste un rêve, que ce n'est pas juste une aventure pour Sophie, c'est dans la réalité.
Hervé Gilbert, Blanche est une adolescente qui vit dans cette période compliquée. Le début de sa première enquête, c'est un peu « Maman, j'ai raté le train ».
Hein,
puisqu'il y a un exode sur le quai au milieu du monde, Blanche perd la trace de sa famille et se retrouve laissée
dans la bousculade, on l'oublie.
Voilà. Et donc, il va falloir qu'elle apprenne à vivre. Le fait de choisir aussi une adolescente dans ce contexte historique-là, ça n'est pas anodin finalement.
Alors, je ne l'ai pas vraiment choisi adolescente parce que dans une première version, ma Blanche avait 21 ans et on parlait des contraintes imposées à nos personnages. C'est une femme à une époque où les femmes ont très peu de pouvoir. Deux, elle est dans un milieu bourgeois, donc il est hors de question qu'elle explore le monde du crime, le monde d'en bas. Et trois, je voulais qu'elle soit enceinte de 8 mois. Je voulais me faire un plan à la Fargo des frères Cohen, mais à Paris en 1870. Et mon éditeur m'a regardé, m'a dit j'aime bien le projet, mais Blanche, 21 ans, enceinte, ça va pas le faire pour les ados, donc tu vas nous la rajeunir de 3-4 ans, et voilà. Donc je prévois peut-être d'en écrire un quatrième, parce que là, elle a grandi sur les 3 volumes, elle a rencontré son chéri.
Il ne faut pas perdre une bonne idée, ça serait dommage.
S'il y a un 4, elle sera enceinte de 8 mois et je ferai mon plan Fargo. Et voilà. Donc voilà, donc après, c'est une jeune femme, quoi. C'est les plus jeunes femmes qu'adolescentes, puisqu'elle prend... Voilà, elle prend...
On parle du contexte historique, mais finalement, c'est tout un contexte culturel également, parce qu'on est à l'époque où naissent véritablement les différents genres de la littérature populaire, que sont le polar d'un côté, la science-fiction de l'autre. Il se trouve que c'est du polar. Elle mène des enquêtes, même si elle n'a pas le droit, même si c'est pas bien vu, etc. Là aussi, il a fallu travailler sur les codes, j'imagine, du genre, sur Gaborio.
Alors, j'ai pas trop plongé dedans. J'ai eu la chance de trouver une source directe qui, en fait, c'est un truc qui s'appelle un dictionnaire de police. C'était le guide des flics de l'époque. Ça les suivait de poste de police en poste de police. J'ai acheté ça en brocante et c'est deux fois 1000 pages. Alors il y a tout ce qui est décret, loi, ça va du train, quand des abeilles vous attaquent dans la rue, qui est responsable, les différentes catégories de voleurs, etc., etc. Et il y a des plages blanches intercalées, une sur deux, où le policier écrivait ses trucs sur Paris. Voilà. Et le volume que j'ai acheté est annoté sur au moins 500 pages par un certain Adolphe Gronfier, qui était commissariat de...
Oui, ça s'invente pas non plus.
Ah non, mais j'ai même sorti un bouquin sur ses notes, et c'est une mine d'or, c'est une mine d'or. Et il parle de côté de Paris qu'on connaissait pas, que ce soit une espèce de pègre d'interprète autour du musée du Louvre qui dépouillait les gens, quoi. Avant, ils avaient quand même visité le musée, mais il est dépouillé après. Mais il y a des trucs fabuleux. Et ça a été ma base policière, en fait, pour Blanche. Voilà.
Parce que ce qu'on n'a pas encore dit aussi, c'est qu'on est dans un Paris, indépendamment du siège, qui est de toute façon en pleine évolution, en pleine mutation.
Ah oui, c'est la fin du Second Empire, c'est Thiers va débarquer. Déjà, il y a eu pas mal de mutations avec Haussmann, etc. Haussmann, ouais. Mais c'est aussi la fin d'un monde, quoi, parce que je pense que jusqu'à 1870, et peut-être au-delà jusqu'à 1914, les deux grandes blessures, surtout 14, il y avait du réalisme magique dans Paris, c'est clair. Il y avait des trucs, les prostituées allaient s'acheter des potions comme au Moyen-Âge au marché aux fleurs sur l'île de la Cité, qu'elles mettaient dans leur... Maintenant, on a des drogues du plaisir, mais c'est pareil, quoi. Mais il y avait une espèce de sorte de magie. Il y avait comme ça une autre anecdote que j'aime bien, c'était le grand dentiste pop star de l'époque, je sais plus son nom, c'était le seul à faire des couronnes en ivoire d'hippopotame. Chaque année, il descendait les Champs-Élysées sur un char, façon corso, avec des filles qui jetaient des prospectus, et lui était déguisé en espèce d'amphitryon fabuleux, quoi. Il vivait comme ça, quoi. C'est Offenbach, c'est machin, etc. Et là, c'est vrai que de 70, bim, un gros coup d'arrêt, arrivé de Thiers, machin, et ça rigole plus, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'on découvre des choses absolument épatantes et incroyables. Et vous nous emmenez à l'opéra, par exemple, dans la première enquête, où on se retrouve. Alors, on ne va pas dire quel opéra, parce que on spoil un peu sinon. mais voilà, on est aussi dans ce Paris qui, assiégé, continue à être un Paris qui vit, qui chante et qui pétille.
Qui bouillonne. Et puis c'est le monde des clubs révolutionnaires. Alors là, la présence féminine, Louise Michel, etc., fabuleux. Les églises transformées en tribunes libres, etc., etc. Puis au-delà, pour revenir à Jules Verne, c'est pour essayer d'échapper à Paris, c'est les ballons. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc c'est Nadar, le photographe, qui va s'y coller. Et les ballons, on transforme les gares en usines de manufacture de ballons, quoi. C'est génial. Voilà. Il y a juste besoin de prendre les éléments, de faire une histoire avec, quoi.
Jean-Laurent Del Socorro, je vais encore avancer un petit peu parce qu'à la fin de Boudica, il y a un petit supplément, il y a une petite piste fantôme, entre guillemets, qui est une nouvelle dont on s'attend à ce qu'elle soit un peu dans le même univers. Et alors, pas du tout, vous nous emmenez ailleurs et vous nous parlez, alors là encore, je pense, d'un événement qui parlera sans doute plus à Delia Sherman qu'à nos autres spectateurs, parce que ce n'est pas forcément un événement non plus qu'on connaît très bien en France, qui est la Boston Tea Party.
Ah oui. Alors, sur cette, je termine toujours mes romans par une nouvelle, et j'essaie toujours d'avoir un... Alors, entre Boudica, Renselt, 1er siècle, la Tea Party, révolte donc de, qui va initier, en faire la guerre d'indépendance américaine, on peut dire quel peut être le lien. Il y a un lien un peu, entre guillemets, magique, ouais, féerique sur le récit. Il y a surtout, j'avais surtout une volonté. Boudica, désolé si je vous spoil, Boudica, effectivement, je ne touche pas la fin. Boudica n'a pas réussi à chasser les Anglais d'Angleterre. Et je ne voulais pas...
Les Romains, elle a chassé les Romains.
Les Romains, pardon.
Les Anglais, c'est un peu embêtant.
Elle aurait pu. Alors, d'une part, je voulais aussi un récit qui parle d'une révolte qui elle, est initiée et va aboutir. Elle a quelque chose qui va marcher. Et d'autre part, c'est un clin d'œil aussi, effectivement. Le Boston Tea Party, ça a été, pour aller très vite, un problème autour du prix du thé en Angleterre, aux États-Unis, pardon, qui était alors encore une colonie anglaise. Les Anglais, qui sentaient que ça quand même bougeait pas mal aux États-Unis, voulaient toujours imposer leur leadership, notamment sur le thé, où ça devait être du thé anglais validé, ainsi de suite, et ils cassaient les prix. Et les bateaux arrivent d'Angleterre, et là, évidemment, ça va être un événement anodin qui va mettre le feu aux poudres, si j'ose dire. C'est les gens se réunissent, se révoltent, et ils décident d'aller jeter des caisses de thé arrivées qui devaient débarquer le lendemain à la mer. Ce qui peut paraître anodin, concrètement, c'est des milliers et des milliers et des milliers de livres qui sont jetés à la mer. Donc, il y a un risque énorme pour ceux qui font ça. Et d'une part, là, on clin d'œil, c'est-à-dire là, dans Boudica, c'est les Celtes, les futurs Anglais qui sont, qui font participer à la constitution de l'Angleterre contemporaine, qui sont soumis par des Romains. Et là, c'est des Anglais qui sont colonisateurs dans un autre pays. Et qui veulent assumer le joug. Et surtout dans cette Boston Tea Party, cette petite histoire anodine, déjà il y a quelque chose qui a fait énormément écho pour moi. Leur leader est une femme, celle qui va. Et là on se retrouve tout à fait en écho. Il y a une image en fait, un symbole de résistance et de révolte, qui comme dans Boudica est une femme forte. Au Boston Tea Party, c'est aussi une femme forte qui va initier, qui va donner l'idée, qui va me donner l'idée de on se grime entre guillemets presque en indien pour pouvoir passer les fils de garde et jeter le CT et tout d'un coup provoquer cette révolte. Et c'était un peu aussi un hommage pour dire c'est avant tout, c'est d'ailleurs l'ouverture de Boudica, hein, je dis... Et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des destins que l'on choisit d'incarner, c'est exactement ça. C'est un moment Boston Tea Party, c'est des gens comme vous et moi, des ouvriers qui ont peur, qui n'ont pas d'armes, et tout d'un coup ils vont se dire, là il faut faire quelque chose, c'est terriblement dangereux pour eux, et ben, ils vont quand même le faire, ils n'ont pas d'armes, et en fait ça va être le début d'un symbole extrêmement fort qui va être repris, il va y avoir d'autres insurrections, on va à nouveau jeter du thé dans d'autres ports, et voilà, il y a quelque chose de... avec les petites gens, parce que pour moi c'est important, les petites gens vont faire la révolution, et ce n'est pas forcément les grands noms qu'on retient à la fin dans les livres d'histoire qui sont les plus importants.
Un peu comme le 14 juillet a amorcé finalement un mouvement qui va devenir la Révolution française par la suite.
Oui, alors je suis moins un expert, mais effectivement il y a des dates, ouais, ce n'est pas pour rien qu'elles sont devenues dates, mais effectivement il y a des gens, des grands noms dessus, au départ il y a d'abord des gens. Hein.
Stéphane, dans le crépuscule, enfin dans le, tout le cycle Origine, hein, qui se termine avec le crépuscule des dieux, il y a une remise en cause aussi un peu par rapport à une vision historique assez classique du simple clivage bien et mal des gentils alliés contre les méchants nazis. D'abord parce qu'on se retrouve avec un personnage central qui est le fil conducteur, qui est un nazi. Donc déjà, il faut que nous, lecteurs, on s'habitue à le trouver sympathique.
Ou pas.
ou pas, mais même s'il évolue, hein, on le voit aussi beaucoup changer au fur et à mesure des tomes. Et puis, on a alors un personnage qui incarne l'Amérique, qui est l'homme du 92e étage, c'est ça?
C'est ça.
On ne sait jamais vraiment comment il... Oui, voilà, Monsieur Lee, dont on dit que c'est probablement pas son vrai nom.
Oui.
Voilà, qui incarne une vision de l'Amérique qui est beaucoup plus menaçante finalement que celle du libérateur.
Oui, parce que finalement tout est souvent à deux facettes dans l'histoire. Hein, on dit toujours l'histoire elle est d'abord écrite par les vainqueurs. Ensuite l'histoire avant qu'elle puisse réellement, avant que l'historien puisse s'accaparer le passé et puisse se décharger du fardeau, je dirais, du présent pour l'analyser, il s'écoule souvent des siècles. Et c'est pour ça que le 19e et le 20e siècle sont à la fois fascinants et pour l'historien et pour le romancier. C'est parce qu'en fait, dans les deux cas, on est sur des périodes où, je dirais, l'analyse objective de la situation, selon moi, elle n'a pas encore été faite et elle ne peut pas l'être parce que déjà, on a des acteurs et on a des systèmes qui sont en place et qui l'étaient déjà ou qui découlent naturellement de cette période. Donc, où forcément, on est dans une zone floue où, effectivement, les limites entre le bien et le mal, elles n'ont pas encore été déterminées, je dirais, scientifiquement, parce que c'est trop tôt.
Hervé parlait pour la guerre franco-prussienne d'une fin de... Non, c'est pas pour... C'est juste pour illustrer, mais d'une fin de période. C'est aussi le cas avec cette Deuxième Guerre mondiale, parce que finalement, une des leçons qu'on retire de cette tétralogie, c'est que c'est la fin de l'omnipotence européenne, du vieux continent.
Tout à fait.
Et c'est un passage de témoin vers l'Amérique.
Absolument. Et ça commence avec la guerre de sécession. Quand la guerre de sécession éclate, les militaires, surtout les militaires européens, considèrent que c'est une guerre de sauvages, hein, pardonnez l'expression, mais voilà, on se dit, lui, c'est les petits cousins d'Amérique qui vont s'amuser à faire la guerre, ils vont essayer de nous copier, mais ils sont très loin du grand Napoléon. Donc voilà, on va les voir, hein, parce que ça se fait à l'époque, hein, comme Sheridan vient en France, il y a des militaires français ou allemands qui vont observer ce qui se passe du côté de Gettysburg, disons, on n'arrive pas, en fait, à analyser à l'époque, en tout cas, ils n'arrivent pas à analyser, selon moi, le conflit américain de la sécession. Vous vous appelez Sherman, comment ? C'est un nom très difficile à porter au sud du Tennessee, parce que le général Sherman, qui est donc un nordiste, a pratiqué une guerre totale dans le sud avec une politique de la terre brûlée, qui n'était pas sans rappeler les pires heures ensuite de l'armée allemande, je dirais. Donc où voilà où ça revient à Monsieur Lee, où on s'aperçoit que voilà.
Qui lui aussi porte un
le
nom.
Parti nordiste, le parti nordiste drapé de l'humanisme, de l'anti-esclavagisme, a pu en même temps se livrer aux pires exactions dans le sud pour mettre à bas les esclavagistes. Donc on est toujours dans une histoire à deux niveaux où forcément même des événements de 1860, selon moi, sont encore trop récents pour qu'on puisse réellement faire la part des choses et l'analyser froidement et objectivement aujourd'hui. Le motif, effectivement, les buts de guerre de Lincoln, abolir l'esclavage, les milieux plutôt de gauche ou d'extrême gauche soulignent souvent que il y avait derrière la volonté des industriels du Nord de remplacer le paternalisme des esclavagistes par le contrôle de la classe ouvrière par d'autres moyens de pression et donc remplacer simplement un modèle économique par un autre.
Donc rien n'est jamais,
simple,
on le croit.
Exactement. Rien n'est jamais blanc ou noir.
C'est le cas dans cette tétralogie, mais vraiment ça peut paraître parfois complexe, mais c'est vraiment passionnant. Merci. Et à différents niveaux, à la fois historique, science-fictif, etc. Il y a vraiment énormément de choses à piocher dans cette série. Delia Sherman, on a beaucoup parlé de la période 1860, ce qui est logique, puisque c'est celle qui occupe la plus grande place dans le roman et puis qui est vraiment le cœur du livre. Mais il faudrait, à mon avis, pas négliger la partie qui se passe en 1960, celle qui encadre finalement hein, le début et la fin avec l'évolution à travers le personnage de Sophie, parce qu'on est aussi dans un cadre particulier. Sophie vit avec sa mère, qui est divorcée, qui travaille, qui est finalement dans une sorte de début d'émancipation. Y a un élément, moi, qui m'a marqué dans le roman. Sophie reçoit une lettre et dessus, il y a un timbre. Est-ce que vous vous souvenez de ce timbre?
I wrote this book a long time
yes,
ago.
I know. Alors, je vais en parler. C'est un timbre à quatre sens où on voit une mère et sa fille et devant elle, il y a un livre. Or, il se trouve que ce timbre, il ne colle pas du tout avec la réalité que vivent Sophie et sa mère.
I think that I looked up the stamps that were issued at the time because that's the way I roll.
Le titre du timbre, je crois, c'est American Woman.
Yeah. Yeah.
Donc les femmes américaines. Yeah. Et c'est une image qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de la vie de Sophie avec sa mère.
Well, no, but before Sophie's mother, I know this because I based her on my aunt, was a woman who liked to be taken care of and was assumed that she would be taken care of. And there was, she got divorced several times, but the last time she decided that she was going to get a job and she was going to, because she was tired of this and she was going to change her life. She remained a problematical person and was always looking for somebody to take care of her in other ways, but she wanted to be self-reliant in that way. So in fact, it was perfect.
Donc, oui, j'ai fait des recherches sur les timbres de l'époque et j'ai choisi ce timbre avec la mère et la fille dans le temps. Mais voilà, la mère de Sophie, c'est une femme, je me suis inspirée d'une de mes tantes pour parler, pour créer ce personnage. Et c'est une femme qui aime qu'on s'occupe d'elle. Elle s'était toujours dit qu'on allait s'occuper d'elle. Et elle a divorcé à plusieurs reprises, c'est la dernière fois qu'elle a divorcé. Elle a décidé de commencer à travailler parce qu'elle en avait marre, en fait, de cette instabilité. Elle a décidé de changer de vie. Mais quand même, elle voulait... ça a toujours été une personne pas facile, disons. Et elle voulait que quelqu'un s'occupe d'elle. Mais du point de vue financier, voilà, elle avait cette indépendance-là.
Alors, je vois l'heure, on va être obligé de s'arrêter là. Mais vous voyez que, mine de rien, quand on se laisse entraîner à écouter nos auteurs, eh ben, c'est vraiment passionnant. Et on a pu découvrir différents univers littéraires, différents univers historiques, différents pays, différentes périodes. Puis vous voyez que, mine de rien, on finit par se retrouver les uns les autres hein, sur ces thématiques, sur ces rencontres, sur ces personnages. Et j'aurais presque envie de vous donner rendez-vous dans quelques années quand vos nouveaux livres respectifs seront sortis, parce qu'on pourrait presque refaire exactement la même table ronde avec vos nouveaux sujets, avec Delia Sherman qui nous parlerait de la France, Stéphane Pirmiski qui nous parlerait des États-Unis. Et finalement, ça serait encore tout à fait cohérent et passionnant. Et si vous avez envie de découvrir ces romans, n'hésitez pas, parce qu'il y a vraiment, vraiment à la fois du choix et des choses extrêmement passionnante et très intéressante pour nous emmener dans un monde qui reste le nôtre finalement, mais qu'on va regarder sous un angle toujours tout à fait différent à travers cet imaginaire qui nous accompagne pendant tout ce festival. Merci beaucoup. Et merci à Claudine pour la traduction.